Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
C'est les vacances, c'est l'été, il fait chaud, puis il y a des gens qui écoutent pas le hockey, il y a des gens qui fouillent des sites internet. Monsieur Richard Martineau, bonjour.
Hey, salut. Hier, ma fille aînée de 24 ans, elle est venue souper à la maison et on a décidé d'avoir du fun. On est allé sur les sites anti-masques, OK? et regardez ce qui s'écrit. Écoute, on s'est pissé dessus littéralement. On n'a pas vu le temps passer. On était pendant une heure là-dessus. C'est à la fois hyper drôle, extrêmement inquiétant. Mm-hmm. Et aussi, je vais te le dire, triste, parce que c'est triste de voir autant de gens qui sont mêlés, qui ne savent plus faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, qui avalent toutes sortes de sornettes qui sont sur les sites. Écoute, je vais te faire un petit, je vais te parler
des... Donne-moi un petit résumé de tes perles que tu as trouvées, parce que, honnêtement, là, j'essaie actuellement d'être de plus comme à l'écoute quand même. Je me dis que ces gens-là doivent avoir la chance de parler, mais effectivement, c'est dur de supporter tant de folie écrit noir sur blanc. Vas-y, je t'écoute.
Écoute, ça n'a pas d'allure. Alors, il y a un site, il y a une image qui se promène, c'est marqué le Club des vendus de TVA. Et là, tu as l'image de Pierre Bruno, Paul Larocque, il y a moi, il y a Mario Dumont. Et là, il y a la photo de Paul Arcand. Paul Arcand est à TVA, je ne savais pas ça.
Oh, okay.
Bernard Drainville est à TVA, je ne savais pas ça. Ouais. Patrick Lagacé est à TVA et Lise Ravary. Comme quoi, c'est n'importe quoi. Les vendus de TVA, ils ne savent même pas qui travaille où exactement. Il y a une fille qui s'appelle Mireille. Mireille, elle écrit qu'elle a passé toute la nuit sur un site qui s'appelle TW. J'ai aucune idée c'est quoi. Elle a passé la nuit là-dessus, puis elle a dit « J'ai écouté des vidéos, j'ai lu des articles et je capote en esti sur cette grosse machine mondialiste. C'est bien plus gros que le non-port du masque. C'est capoté. C'est notre vie qu'ils veulent. » Et là, elle écrit « Le port du masque est un symbole de soumission dans les rituels sataniques. Voici des liens à cet effet. » Et là, elle dit « Le plan du coronavirus. »
Le port du masque dans le cadre du coronavirus, tu vas me dire, est-ce qu'on a perdu ton signal, Richard? Oui, oh, on a même un son qui ressemble à le sonore d'un voyage au fond des mers. Nous sommes dans un sous-marin actuellement. Richard est donc dans le fond de l'eau, mais on n'a plus de communication avec Richard. C'est bien triste parce qu'effectivement, on lit des choses comme ça. Puis j'insiste pour dire que je veux pas ridiculiser ces gens-là. Ces gens-là ont le droit d'avoir une opinion dissidente. Ça, c'est très clair. Le problème, puis on a vu, quand on a fait une entrevue avec la dame qui avait entrepris cette pétition en ligne. Et là, on entendait son argumentaire qui se valait, bien évidemment, mais qui, à un moment donné, tombait un peu à court d'arguments. Parce que quand on arrive à parler de cette communauté de scientifiques qui arrive à la conclusion que le port du masque, c'est la meilleure précaution à prendre, ben, écoutez, madame, à un moment donné, là, on peut bien discuter jusqu'à 2h du matin, mais les faits sont les faits. La science, les scientifiques ont convenu que c'était la meilleure chose à faire de porter le masque. Alors, à un moment donné, on arrive au bout, on veut défendre un point de vue, mais à un moment donné, on arrive à un sommet d'incompétence, et là, ben, ils rencontrent du monde sur leur chemin, puis c'est les gens de l'OMS. Richard, es-tu encore là?
Oui, alors je suis là. Écoute, je reviens.
C'est bon. Attends, on avait l'impression que tu étais dans le sous-marin de voyage au fond des mers. Il y avait un bruit de sonore. Boum! Alors, okay, je t'écoute.
C'est un complot, on veut me faire taire.
C'est ça.
Alors, il y a Mireille qui dit qu'elle a passé la nuit jusqu'à 5h du matin à regarder des vidéos, à lire des textes, puis elle dit que c'est épouvantable, c'est un complot, c'est une machination. J'étais tellement renversé parce que je lisais que je n'ai pas vu le temps passer. Ce combat est plus grand que nous tous. Nous avons notre part à faire. Elle dit qu'il faut partir en guerre. Notre victoire est assurée. Écoute, c'est du délire totalement. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui dit que c'est complot qui implique Bombardier, Justin Trudeau, le Cirque du Soleil, TVA, Le Soleil, la presse, les ciments mécanistes, Québec Inc., le Big Pharma et François Legault.
Et là là. Mais ils honnêtement, on s'approche ici là d'enjeux de santé mentale. Là.
Ben tout à fait. Écoute, attends une minute, là. Écoute bien ça. Il y a une femme, elle dit... Il y a un complot dans les CHSLD au Québec. Ils ne donnent plus de vitamine D aux vieux pour créer une deuxième vague. Écoute bien ça, parce que s'il y a une grosse pandémie puis une grosse deuxième vague, les élections aux États-Unis vont se faire de façon informatique. les gens ne pourront plus aller voter à cause de la pandémie qui a été créée par les CHSLD au Québec. Et là, parce qu'ils veulent barrer la route à Donald Trump, tu comprends? Et ça doit être les gars, les gens. Écoute, c'est du délire, ce n'est comme, c'est le même tout le long, c'est super drôle. Il y en a un autre, il dit
mais
bon,
comme tu disais tout à l'heure, Richard, c'est super drôle, mais en même temps, c'est super triste.
C'est super inquiétant. Il y en a d'autres qui disent les vaccins vont être obligatoires bientôt. Ils vont venir avec deux policiers armés. Ils vont te prendre. Ils vont t'envoyer dans une clinique pour te mettre, pour te vacciner contre ton gré. Mmh. Écoute, ça n'arrête pas comme ça. C'est triste. C'est épeurant. Et toi, t'as été député pendant quoi? 8 ans?
Ouais.
OK. Alors, la démocratie, Pierre, la démocratie, la base de la démocratie, c'est de dire que le peuple prend de sages décisions. Le peuple est capable de choisir qui est la meilleure personne pour veiller à leurs intérêts. C'est ça, la base de la démocratie. Quand tu regardes sur... Ah, parce que ces gens-là ont le droit de vote, là. Ils ont le droit de vote, là. Quand tu regardes ça, est-ce que tu te poses des questions sur la santé de notre démocratie?
Ben, ta question est extrêmement pertinente. La chose qui me rassure, c'est quand même que c'est une toute petite frange de la population qui s'active là-dessus. Mais il n'y a aucun doute que quand on regarde ce qui se passe au sud de la frontière, ben là, on voit que c'est quand même impensable que quelqu'un choisisse de voter pour Donald Trump. Voyons donc, c'est très clair, cet homme-là n'a pas toute sa tête. Et malgré ça, il y a quand même actuellement, je n'ai pas vu les sondages les plus récents, mais il y a, probablement 40% des gens qui soutiennent Donald Trump encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est perturbant, c'est de voir que il y a une espèce de ras-le-bol général qui canalise en politique vers, par exemple, Donald Trump. Alors, ces gens-là qu'on voit aujourd'hui, des anti-masques, qui se mobilisent et qui s'organisent, en même temps, il y a un réel risque. Ces gens-là ne sont quand même pas une large part de la population, mais est-ce qu'on veut donner une voix? Est-ce qu'on veut entendre ces gens-là? Ce sont des citoyens comme les autres, mais ils sont vite harnachés par des gens qui... prennent plaisir à prendre du pouvoir, à développer un auditoire. On le voit souvent dans plusieurs films de fiction politique, mais on le voit ici. Puis je suis sûr que tu as remarqué comme moi certains logos, certains t-shirts, certaines affiches. Et j'ai vu les deux mots Maxime et Bernier sur un t-shirt chez ces gens-là. Il y a des gens qui veulent prendre la parole, qui veulent faire le plein de soutien politique dans ces franges de population.
Et je pense que la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de se poser la question pourquoi autant de gens ont de la difficulté à croire les élites, à croire les figures d'autorité. Il y a eu un bris de confiance. D'où vient ce bris de confiance-là? C'est quoi? Est-ce que peut-être que les médias doivent se regarder aussi dans le miroir, surtout aux États-Unis, par exemple, où les médias sont très, très, très biaisés, qui se disent objectifs, mais on le sait que CNN, c'est hyper démocrate. Fox News, c'est hyper républicain, que les gens ont peut-être perdu confiance dans la neutralité et l'objectivité des médias. Je sais pas, peut-être qu'il y a une élite politique aussi qui est complètement déconnectée du peuple, une élite politique qui se tient avec l'élite financière, qui se tient avec l'élite artistique, les gens ordinaires, M. Joe Blow, M. John Sixpack, s'étant peut-être un peu abandonné par... Tu sais, il va falloir comprendre à un moment donné d'où vient ce bris de confiance-là. Si on veut, excuse-moi l'anglicisme, mais adresser le problème, comme on dit, si on veut essayer de guérir ce problème-là, mais c'est quand même assez épeurant. Heureusement, dans le cas du port du masque, il y a eu des sondages, qu'on l'a vu, c'est quoi, 75% des Québécois qui sont pour. Mm-hmm. Donc, ces gens-là, quand même, ce ne sont pas en majorité. Non. Mais reste que ces gens-là votent, ils sont là. Et il y a des gens, effectivement, il y a des mouvements qui veulent profiter de ce cynisme-là dans la population, un populisme bas de gamme, mais pour faire des gains politiques.
Mais Richard, tu l'as vu comme moi, même au Canada, ça a été surprenant de voir une espèce de le mot qui me vient en tête, malheureusement, est en anglais, là, une espèce de shift, un passage de la défense du monde ordinaire qui, autrefois, était l'apanage des partis de centre-gauche, qui maintenant, du côté de la droite, en tout cas, très souvent, on les entend se clamer au niveau, en tout cas, de la rhétorique, du côté du peuple ordinaire, alors qu'en arrière, dans leur politique, c'est peut-être beaucoup moins frappant, mais publiquement, c'est ce qu'ils disent. Et effectivement, la gauche s'en va plus du côté de la défense d'idéaux déconnectés. On pourrait imaginer que Québec solidaire parlerait aux travailleurs qui s'en vont faire un autobus à la Pocatière, mais ça semble pas être le cas.
Ben exactement. T'sais, moi, mon père, moi, je viens de Verdun dans un milieu assez modeste. Mon père travaillait dans une usine, dans une shop. La gauche, t'sais, syndicale, parlait à mon père, parlait à ce petit monde-là. Là,
oui.
Les gens qui avaient de la difficulté à arriver, qui avaient des petits jobs, etc. Et là, la gauche, on dirait, a décidé de ne plus parler au peuple en disant oh, « Le peuple, ça vaut pas la peine d'y parler. De toute façon, il comprend rien. Il est bouché ben raide. » Alors, ils se sont mis à parler aux minorités sexuelles, aux minorités raciales, aux immigrants, etc. Et a comme perdu contact avec la grande masse, et cette masse-là se sent abandonnée par la gauche, et là, va vers une droite, et une droite populiste niaiseuse, là, vraiment,
oui.
Une droite libertarienne stupide, et tu sens une détresse là-dedans. Et écoute, je vais te lire un truc. Le gars s'appelle Dominique, attends une minute, là, je vais trouver ça, Dominique Jasmin, OK? Dominique Jasmin, c'est lui qui est administrateur d'un site qui s'intitule « Regroupement contre le port du masque obligatoire ».
OK.
Et voici ce qu'il a écrit. Allez, tu vois ça, tu veux rire, mais en même temps, c'est très... Écoute ça. J'arrive de chez IGA, et c'était la première fois que je devais aller dans un commerce et porter le masque pour pouvoir acheter du pain et du lait pour ma famille. J'ai pas réussi à acheter tout ce que je voulais, tellement je suis devenu émotif. Quand je suis arrivé dans mon auto, j'ai éclaté en sanglots. On dirait que je suis plus capable de m'arrêter. Je souffre en dedans, ça fait mal. Je peux pas croire que mon gouvernement me fasse vivre ça. C'est un cauchemar. Le gars, il a éclaté en sanglots dans son char parce qu'il était obligé de porter une masque pendant 2 minutes quand il est allé chez IGA. C'est bon, là. Comme tu dis, c'est près de la maladie. On dirait
qu'il y a
des troubles, là.
Puis j'ai l'impression, en tout cas, qu'ici, clairement, moi, je trouve ça très inquiétant. Tu te rappelles, à une certaine époque, quand les réseaux sociaux sont apparus, on a eu le sentiment que parfois, il y avait comme des confessions pré-événements de tout genre, là, sur Facebook. Moi, je m'excuse, mais de lire ça, je trouve ça très inquiétant. Cette personne-là a clairement besoin d'aide. Pas tant parce que, elle dit que le gouvernement la force à faire quelque chose, mais parce qu'elle fond dans sanglots dans son auto. Premièrement.
Je pense, Pierre, c'est très dur pour tout le monde, le confinement. Je pense qu'on sous-estime l'impact psychologique. Moi, je suis un gars quand même assez fort. Je suis capable d'en prendre. Et j'avoue que lorsque je repense à ça, c'était difficile, le confinement. C'est très top et c'est pas évident de porter le masque. Je suis allé souper encore récemment dans un restaurant, puis on était tous entourés de plaires, de murs en plexiglas, puis tout ça avec des masques. Écoute, il y a quelque chose de déshumanisant là-dedans. Et on perd nos repères, et peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, et là, qui deviennent, d'autres, la cible facile de groupes complètement débiles.
Là. Oui, mais c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Mon sentiment, en tout cas, c'est que l'intervention psychosociale, psychologique, à grande échelle, serait approprié. Il y a eu quelque peu, mais on se souvient, on n'est pas obligé de rester, on vous demande de rester en dedans, mais il ne faut pas garder tout en dedans, appeler à tel numéro. On devrait réitérer ces invitations-là, parce que pour tout le monde, tu as raison, moi aussi je l'ai senti, je suis allé au centre d'achat l'autre jour, puis un moment donné, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, c'est-tu possible, on est en train de vivre ça, qu'on constatait tout le monde avait un masque à l'intérieur d'un centre d'achat, tout appareil, il manquait juste des lumières de Noël, mais tout le monde avait un masque. Puis c'est vrai que c'est dur à prendre. Ben, c'est vraiment intéressant de conversation, Richard.
Et Pierre, tu te dis, c'est au niveau mondial, c'est des milliards de personnes qui vivent ça. Il n'y a rien qui nous préparait à ça. Tout allait bien, là, puis là, soudainement, on est tombé en très peu de temps dans un genre de film de science-fiction
exact.
Où vraiment, le matin, il faut se pincer des fois en disant, mais ça a-tu de l'allure?
Qu'est-ce qu'on dit
là? Ouais. Et là, on parle de reconfinement dans plus en plus de pays qui vont reconfiner. T'imagines le choc psychologique. C'est cet automne, avec des journées qui raccourcissent, avec la grippe saisonnière qui arrive, avec moins de soleil, puis en plus un reconfinement. Moi, j'ai très peur pour les impacts sur la santé mentale des gens.
Ben, heureusement, au Québec, on a 5000 membres de l'Ordre des psychologues, puis ils sont les premiers à lever la main pour être mis à contribution. Hey, Richard, c'était une super belle conversation. Merci beaucoup. Bonne journée, à demain.
Merci.
Bye.
Merci, Pierre. Salut.
Vous écoutez Pierre Nantel.